RCF.
Alors on poursuit cette semaine ce thème de la fraternité. C'est avec vous, Père Benoît de Cinetti, à partir de votre ouvrage « La fraternité, sinon rien, la force transformatrice de l'Évangile ». Alors c'est un ouvrage qui s'arrête sur ce qui nous rend frères les uns des autres et qui propose aussi une photographie de ce qui nous sépare parfois, et notamment sur les freins à la fraternité. On a évoqué la pandémie, les gestes barrières. Vous citez vous aussi dans votre ouvrage ce qui finalement avait déjà auparavant distendu les liens entre les hommes, entre les Français en tout cas, avec la fin du service militaire. Vous citez les colonies de vacances, les stades de foot.
Ah, ça fait un peu vieux ringard, hein, pour pas dire autre chose.
Le mélange dans les églises qui ne se fait pas toujours.
Ah oui.
Et vous dites tout simplement, nous nous connaissons de moins en moins les uns les autres. Et finalement, vous appelez à une sorte de désordre un petit peu dans la charité, à vouloir un petit peu aller au-delà.
Oui, oui, il faut mettre un peu la pagaille. C'est important de mettre la pagaille dans une société. Il ne faut pas avoir un monde trop lisse, trop ordonné, trop rangé. Vous savez, le côté un peu bourgeois, propre et lisse, quoi. Il faut quand même apporter un peu de vie à tout ça, quoi.
Mettre le dawa.
Voilà, exactement. Exactement, c'est vous qui le dites. Hein. Mais le propre de la fraternité, c'est que précisément, ça ne nous laisse jamais tranquille. C'est l'intranquillité. Pour moi, je plaide pour une existence intranquille, l'éloge de l'intranquillité. Il n'y a rien de pire que d'être tranquille, voilà.
Est-ce qu'il y a trop de connivence ? Il y a trop de connivence.
De connivence, c'est-à-dire ?
Avec, vous dites trop tranquille, avec peut-être je fais le rapprochement avec ce langage qui nous endort, ces fameux éléments de langage qui reviennent, par exemple, dans les discours politiques, dans les médias.
Quand même, faut dire, le drame de l'époque, c'est quand même une surcommunication. Enfin, pardon, je parle pas du tout de la radio et encore moins de RCF, vous savez bien. Mais c'est une surcommunication qui est totalement plate. C'est où on ne dit plus rien. Et on voit bien que nos propres hommes politiques, enfin tout personnage public aujourd'hui est entouré de conseillers en communication qui lui expliquent que surtout il faut parler un langage simple, basique, comme si on était tous des abrutis finis, et surtout ne pas aller contre les gens. Alors que ça c'est quand même un grand mystère. C'est-à-dire, pas contre, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on a identifié des sujets, par exemple, où on dit ça faut pas en parler parce que les gens sont pas prêts à entendre ça, ou ils n'ont pas envie d'entendre ça, machin, etc. Alors du coup on leur sert de la soupe, on nous sert de la soupe. C'est-à-dire qu'on nous donne ce qu'on s'imagine qu'on a envie de manger. C'est-à-dire, en fait, et on voit bien, et c'est assez drôle parce que, en fait, si vous voulez, sans faire de pub à une marque particulière, en gros, c'est la fast-food, quoi, si vous voulez. On nous donne à manger des trucs simples, un peu régressifs, que tout le monde aime manger parce qu'il y a un peu de gras, un peu de sucre, et que, voilà, ça fait appel à nos espèces de réflexes un peu archaïques, quoi.
Et ça, pour revenir au thème de la fraternité, c'est ce qui finalement, à cause de ce mensonge, à cause de ces mots peut-être un petit peu galvaudés, on a du mal à avoir de vrais liens. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
C'est même pas un mensonge, c'est juste une manière de vouloir être tranquille, parce que c'est ça le problème, c'est que on veut une société qui est tranquille.
Et la fraternité ne laisse pas tranquille.
Et la fraternité ne peut pas laisser tranquille les gens, parce que la fraternité, elle nous interroge toujours. Est-ce que j'en fais assez pour mon frère? Est-ce que s'occuper de l'autre, par exemple, c'est pas simplement faire un chèque de 100 balles? S'occuper de l'autre, c'est prendre du temps. Dans chacune de nos vies, chacun, nous avons l'expérience d'une personne, parfois de plusieurs, dont nous avons eu à nous occuper. Ça peut être un parent, ça peut être un ami qui allait mal. Ça demande de l'énergie. Ça pompe un temps fou. Quelqu'un qui vous appelle trois fois par jour, quelqu'un qu'il faut aller voir à l'hôpital tous les jours, quelqu'un qui partage votre vie quotidienne et qui va pas bien, c'est épuisant. Et pourtant, on le fait. Parce qu'on sent bien que c'est un devoir absolu. Et même si ça nous enquiquine, on le fait. Parce qu'on l'aime, l'autre. Et on ne veut pas le laisser crever, quoi. C'est tout. Et donc, on l'aime. Eh ben, la fraternité, c'est ça. Alors, on l'expérimente avec ses plus proches d'une manière très radicale. Mais en fait, cette fraternité, elle nous invite à ne pas avoir peur d'expérimenter ça aussi avec quelqu'un d'un peu plus lointain. Vous voyez ? Et dès qu'on sort du cercle immédiat des amis, de la famille, et qu'on ose aller un peu au-delà et poser des actes qui manifestent à l'autre qu'on le reconnaît comme un frère,
c'est vachement
audacieux parce que ça nous engage énormément. Parce que si je vous dis, écoutez, j'ai envie de vous aider, d'être auprès de vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que je peux, vous allez me répondre. Et donc après, je suis pas dans la mouise, moi, si vous me répondez, parce que ça m'oblige à faire les choses.
Que puis-je faire pour toi,
ouais. Que puis-je faire pour toi?
Parfois, la fraternité pour servir la patrie, pour servir un idéal politique, pour servir une cause. Quel sacrifice nous demande la fraternité pour le Christ?
Mais il nous demande le sacrifice d'accepter de croire que nous ne risquons rien à ne pas retenir notre vie. C'est ça, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que le sacrifice, c'est un sacrifice psychologique d'abord. C'est sortir de nos peurs. Voilà. Arriver à croire que j'ai tort d'avoir peur de me donner. Voilà. Parce que finalement, comme le disait une phrase qui a été reprise par le père Sérac, qui était une grande figure de la Compagnie de Jésus et qui était missionnaire en Inde pendant des décennies, le père Sérac disait tout ce qui n'est pas donné est perdu. Voilà. En fait, le grand défi de la fraternité, c'est de croire que tout ce que je ne donne pas, je le perdrai. Voilà. Parce qu'on est souvent, on se dit, si je te donne pas ça, je le garde. C'est pas vrai. Si je te donne pas ça, je le perds. Parce que ça n'a plus de valeur, en fait.
Et vous posez aussi la question du coup de la place de la religion dans la société et du sacré qui échappe au quotidien de certains jeunes, en tout cas dont on ne leur parle pas. Et vous appelez une réflexion collective sur la violence qui naît parfois de cela, finalement de cette fraternité qu'on n'arrive pas à construire, peut-être parce que on n'a pas reçu. Les jeunes n'ont pas reçu cette réflexion.
Plus que de la misère morale, c'est la détresse morale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des générations aujourd'hui qu'on a de manière consciente et j'allais dire presque systématique, empêcher de vivre autant que possible cette dimension spirituelle à laquelle ils aspirent. Alors on peut jamais empêcher un être humain de vivre une quête spirituelle, mais en tout cas on a fait les choses de manière à ce qu'elles soient rendues la plus compliquée possible et la plus confuse possible. Et donc c'est en supprimant tout référentiel religieux, en prenant grand soin de ne plus jamais évoquer la question religieuse autrement que de manière négative dans le débat public, en supprimant tout intervenant qui pourrait éventuellement remettre cette question sur le devant de la scène de manière paisible et constructive, et en retirant du débat d'idées toute pensée religieuse parce que devenue suspecte de fanatisme et de je ne sais quoi. Bon, donc on a fait ce travail-là de manière extrêmement consciente, en tout cas extrêmement systématique. On arrive aujourd'hui à un pays qui est totalement sécularisé, où vous avez à peine 5 ou 6% de gens qui pratiquent la religion catholique, et où parmi la population française, la plus grande masse de gens se retrouve en fait sans religion particulière, même s'ils se rattachent vaguement au christianisme, mais enfin il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de culture, il n'y a pas tout ça, c'est une espèce d'humus quoi, qui a disparu, qui s'est asséché. Voilà. Donc la situation, elle est ainsi. Après, donc c'est une détresse, et donc il y a une repasse là, parce que nul ne peut empêcher un homme de se poser des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Etc. etc. Donc, cette détresse, elle existe et elle se traduit par des quêtes de toutes sortes. Bon, qui peuvent aller parfois vers le fanatisme, parfois vers le nihilisme, parfois vers une espèce d'autodestruction aussi. On n'a jamais eu autant de cas de gens en dépression nerveuse, en problèmes psychiatriques. Il n'y a jamais eu autant de consommation de tranquillisants, mais aussi d'alcool, mais aussi de drogue. Je veux dire, tous les fumeurs de joint de 15 à 70 ans, c'est quand même, pardon, des gens qui ne vont pas bien. Alors, sauf peut-être une minorité qui fait ça de manière ludique, pour peu qu'on puisse le faire de manière ludique régulièrement, mais la plupart d'entre eux ne vont pas bien. Donc, ça dit des choses d'une société. Et s'ils ne vont pas bien, c'est que quelque part on ne trouve plus dans la société un idéal vers lequel aller. Vous voyez, c'est-à-dire l'idéal d'une vie peut pas être simplement d'aller faire remplir son caddie à Auchan le samedi matin, ou de regarder Netflix en boucle en mangeant de la Haagen-Dazs. Vous voyez, c'est pas l'idéal d'une vie, ça. Ou bien de trouver des amours de passage sur Internet et le temps d'une heure ou d'une nuit. C'est pas une vie, ça. Ça c'est un cirque. Mais un cirque, un jour, on se réveille avec une gueule de bois et ça devient insupportable. Vous voyez, et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et donc, quand je dis qu'il faut poser les choses à plat, c'est qu'une société ne peut pas se permettre de ne pas chercher à trouver du sens et à ne pas comprendre quel est le sens de notre vie collective. Qu'est-ce qu'on fait là? Je veux dire, non seulement vous et moi, mais nous tous ensemble. Et à quoi ça sert la France? C'est quoi la France? C'est quoi l'Europe? À quoi ça sert dans le monde d'aujourd'hui? Quel idéal on veut pour notre pays, pour notre continent? Pour notre culture, on parle de notre culture. Très bien, moi je suis le premier à défendre la culture française, à trouver qu'on a un patrimoine historique, culturel, formidable, magnifique, etc., qui a inspiré le monde, hein, d'ailleurs.
Et c'est là qu'intervient la fraternité.
Mais c'est là où, mais bien sûr, parce que
sinon rien, c'est
la culture Netflix, si vous voulez. C'est-à-dire pas grand-chose, hein. C'est quand même pas grand-chose. Et d'ailleurs, on les oublie assez vite après les avoir vus, tellement c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, on perd du temps. On perd notre existence à vivre des choses qui ne sont rien.
Voilà. Est-ce que c'est pas ça qui a été découvert pendant la pandémie par des centaines de personnes qui ont commencé à s'impliquer, qui ont commencé à prendre des nouvelles de leurs voisins?
Je pense qu'il y a une prise de conscience. Chaque crise engendre des mobilisations et des prises de conscience parce qu'on voit la précarité de notre existence. Surtout dans des sociétés comme la nôtre, qui étaient tellement sûres que on trouverait réponse à toutes les difficultés sans avoir à se faire violence. Voilà. C'est, d'un seul coup, on est face à un espèce de truc un peu compliqué. On n'arrive pas à gérer. L'État arrive plus à gérer parce qu'il n'est pas préparé à ça. Les citoyens arrivent. Enfin, on est tous un peu sidérés.
Et donc, on est déplacé.
Et donc, on est déplacé. On est obligé de se déplacer. Moi, j'ai un souvenir très, très ancien parce que quand j'avais 20 ans, au début de mon séminaire, on était parti faire une retraite. J'étais donc à Paris, dans un monastère à l'extérieur de Paris. Puis on était rentré un samedi matin. Je me souviens très bien et j'avais une course à faire. Bon, on avait une journée de tranquille, de liberté. J'avais une course à faire. J'avais acheté une chemise, vachement intéressant, pardon, dans un magasin à Paris. Et là, il y avait une manifestation qui passait. Et c'est la première fois, c'était en 1988-89, où j'ai vu des casseurs. Voilà. Et donc, il y avait, c'est un cortège de manifestants étudiants, je crois, qui dégénéraient. Et donc, ils cassaient tout. Donc, il y avait des bandes avec des battes de baseball, ils cassaient tout. Et je me souviens des gens, c'est la première fois que j'ai vu ça, des gens sous les porches des immeubles, c'était un quartier très bourgeois de Paris, donc les gens se regardent à peine, se saluent de loin, et puis bon, les gens cédaient, et puis se parlaient. Parce que on était, tout le monde était paniqué. Et donc, on cède, puis il y a un type qui dit, il y a ce porte-cochère sur lequel j'étais réfugié, puis qui dit aux trois, quatre personnes qui étaient là, si vous voulez, montez et vous réfugiez chez moi pour que ça passe, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans des moments comme ça, ça nous sort de notre tranquillité, voilà. Et on devient intranquille pour nous-mêmes, et on devient intranquille pour l'autre. C'est-à-dire l'autre, la vie de l'autre reprend un peu d'importance à nos yeux, parce qu'on va quand même pas laisser le pauvre bougre se faire tabasser par des cinglés avec des battes de baseball dans la rue, quoi. On va lui dire, viens te réfugier chez moi. Et finalement, on s'est réfugié chez lui.
Et alors, ça veut dire qu'il faudrait pouvoir être dans cet état d'éveil, cet état d'attention.
Ouais, c'est-à-dire qu'évidemment, je suis comme tout le monde, personne. Enfin, on n'est pas des gens complètement avec une espèce d'éveil permanent et de radar en activité tout le temps. Mais oui, en tout cas, il faut avoir le désir d'être en éveil, quoi. Voilà, le désir.
La fraternité comme un désir, c'est ce dont vous parlez dans votre ouvrage Benoît de Cinetti, La fraternité sinon rien, chez Salvator. Merci.